Donc, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Renaud Boissery. Jean-Renaud Boissery, je le connais depuis longtemps. Lui aussi, connaît depuis longtemps. On a fait une thèse ensemble. Enfin, c'est lui qui l'a faite. Il est chercheur CNRS et après avoir été parisien, il est maintenant revenu, on dit qu'on revient toujours aux sources. Avant d'être parisien d'ailleurs, il a été chercheur à l'Université de Californie, à Berkeley. Je pensais qu'il resterait à Berkeley, mais il ne s'est pas plu. Et il m'a toujours expliqué que Berkeley, c'était très joli, mais que pour un périgourdin, c'est un périgourdin d'origine, c'était beaucoup trop dur de vivre à Berkeley. Il a fait beaucoup de terrain. Il a fait beaucoup de terrain au Tchad. Il a fait beaucoup de terrain en Afrique orientale. Il a fait beaucoup pour le muséum d'Addis Abeba. Il a fait beaucoup pour toutes les collections de l'Omo, de la vallée de l'Omo, toutes ces collections qui avaient été récoltées par les expéditions franco-américaines, je pense à Coppens, Clark Howell. C'est grâce à lui, grâce à Jean-Renaud Boissery, si tout ce matériel est maintenant réinventorié, abrité, classé et accessible aux chercheurs. Et à la suite de quoi, c'est quelqu'un de très consensuel, ce qui est rare dans le métier. Il a réussi à avoir l'accord des Français et l'accord des Américains. L'accord des Français, c'était plus facile, mais l'accord des Américains... Pour reprendre les fouilles dans la vallée de l'Omo. Alors, pourquoi reprendre les fouilles dans la vallée de l'Omo? Il va vous l'expliquer, j'imagine. Mais il faut quand même voir que ça faisait quoi, 30 ans hein, que c'était ouais, arrêté. 30 ans. Ouais. Et donc, je l'ai invité aujourd'hui parce que vous voyez bien que il se passe des choses dans notre histoire entre moins 2 et moins 3 millions d'années. Et entre moins 2 et moins 3 millions d'années, la vallée de l'Omo, c'est un bel endroit pour savoir ce qui se passe à cette époque-là. Donc, Jean-Renaud, merci d'être venu. Et maintenant, c'est à toi la parole.
Je vous remercie, monsieur le professeur. Je vous remercie de me donner la parole et puis de m'avoir invité à ce séminaire. C'est pour moi un très grand plaisir, un très grand honneur d'intervenir ici au Collège de France. Donc, oui, je vais vous parler du Jean-Renaud Boissery et de la vallée de l'Omo. Alors, il y a une petite différence orthographique que je vous prie de noter tout de suite, on y reviendra. Et puis, de la question de l'avènement du Jean-Renaud Boissery dans un contexte climatique perturbé. Alors tout d'abord, la vallée de l'Omo, je voudrais vous la présenter et faire un petit peu d'historique du travail qui a été effectué là-bas, parce que beaucoup de gens ont travaillé là-bas finalement. Et pour faire de l'histoire, il faut faire de la géographie. Alors voici une carte de l'Afrique, avec le contour de l'Éthiopie, ici. Vous reconnaîtrez sur cette vue satellite la mer Rouge, le golfe d'Aden, avec Addis Abeba placé sur les hauts plateaux éthiopiens, qui sont en vert, évidemment, ils sont assez arrosés, le triangle Afar, que ceux qui suivent régulièrement ce cours connaissent bien, puisque c'est là qu'on a trouvé Lucie et beaucoup d'autres fossiles, je pense aux ardipithèques notamment. Mais aujourd'hui, on ne va pas s'intéresser à l'Afar, on va plutôt travailler dans le bassin du Turkana. Alors là, voici une image agrandie, avec ici le lac Turkana, qui est un lac qui fait environ 500 km de long, et puis ici la rivière Omo. Alors la frontière avec le Kenya passe par là. Là, on est en Éthiopie, là, on est au Kenya. Et puis tout un tas de sédiments qui ont livré des fossiles fameux. Vous avez ceux qui sont là, les Rudolfensis et les Habilis, qui viennent de cette région-là du lac Turkana. Alors au Kenya, la formation de Kobifora, il y a un certain nombre d'autres formations qui sont importantes pour l'histoire de notre évolution. Et puis, il y a la basse vallée de l'Omo, qui est en Éthiopie. Alors, ces sédiments, on a compris un petit peu leur signification en termes de paléontologie assez tôt, comparé à beaucoup d'autres recherches qui ont été faites sur notre origine. En Afrique, on a découvert le premier Australopithèque en 1924, en Afrique du Sud. Mais on a trouvé des fossiles, avant cela, dans la vallée de l'Omo, dès 1902. Et ce sont des Français qui les ont trouvés. C'est quelque chose qui n'est pas très très connu. C'est le vicomte Bourg-de-Bozas, qui était un jeune homme à l'époque, qui a décidé de faire une grande expédition, comme on faisait dans ces temps-là, une grande expédition scientifique dont l'objectif était, à partir de la mer Rouge, de traverser l'Afrique et de rejoindre l'océan Atlantique. Évidemment, avec un certain nombre de chercheurs, c'est une expédition scientifique avec d'autres buts aussi, des buts humains, je dirais, enfin, pour l'aventure, pour des aspects économiques. Bon. Et on retrouve là Bourg-de-Bozas avec des gens qui vivent et qui vivent toujours dans l'Omo. Certains de leurs descendants, on les connaît bien sur le terrain. Donc, ce sont les Nyangatom et les Karo. Et Bourg-de-Bozas, il atteint la vallée de l'Omo en 1902, en juin 1902. Malheureusement, il n'a jamais vu la fin de son expédition, puisqu'il a succombé à la malaria qu'il a probablement contractée dans l'Omo. Il a succombé au milieu de son voyage du côté du Congo. Alors, on retrouve ici la caravane de Bourg-de-Bozas. À l'époque, les expéditions, c'était des... C'était toute une affaire, il y avait des centaines de gens, il y avait des dizaines de chevaux, des mulets. Et donc au bord de la rivière Omo, juste au moment de traverser, alors je suis désolé, c'est un peu surexposé, c'est une vieille image, et voici le docteur Émile Brondt, qui était le docteur qui accompagnait la mission, mais qui était aussi le scientifique naturaliste, et qui, lui, le premier, au moment de la traversée, a vu des fossiles sur la rive ouest de l'Omo. Il les a ramassés, il les a ramenés à Paris au Muséum national d'histoire naturelle. Et là, quelques années plus tard, une trentaine d'années plus tard, ces fossiles ont déclenché l'intérêt d'un paléontologue qui a vraiment marqué l'histoire de la paléontologie française, c'est Camille Arambourg. Et Camille Arambourg a beaucoup travaillé en Afrique, et en voyant ces fossiles qui venaient de l'Omo, bien, il a décidé de monter une expédition, alors avec des moyens un peu plus modernes, dans le bassin du lac Turkana, vers l'Omo, et il s'est installé à un lieu-dit qu'il a appelé Bourrier, qui est finalement l'endroit où nous aussi on plante notre camp aujourd'hui. Donc vous voyez, les choses n'ont pas beaucoup changé. Arambourg a trouvé beaucoup de fossiles, et il a décrit beaucoup d'espèces nouvelles à l'époque dans ces gisements de l'Omo. Il a reconnu leur âge, il a étudié la géologie, il a reconnu qu'ils étaient d'âge plio-pléistocène. Alors après ce travail d'Arambourg, il a juste travaillé une année. Il a travaillé plus exactement 2 mois. Il a passé 2 mois dans la formation de Chungura. Après ce travail, il y a eu une longue période sans d'expédition importante. Il y a eu quelques petits essais, quelques petits travaux rapides, mais rien de très conséquent. Par contre, cet homme-là, Francis Clark Howell, qui est un paléontologue, un paléanthropologue américain, a lui décidé, dans les années 60, de remonter une mission dans l'Omo, et il a réussi à rassembler tout un groupe. Et je voudrais ici saluer la mémoire de Clark, parce que c'est quelqu'un qui a marqué d'une empreinte définitive l'ensemble de notre profession. Il a mis en place des méthodes qui sont toujours utilisées aujourd'hui, et en plus parce que c'était un ami. Donc, sous l'impulsion de Clark, à l'origine, mais aussi de Camille Arambourg, à cette époque-là, dans les années 60, s'est montée l'International Homo Research Expedition, avec un contingent américain conduit par Clark, qu'on retrouve ici avec des collègues. Un contingent français conduit par Yves Coppens, que vous connaissez bien, et qui connaît bien ces lieux, mais aussi Camille Arambourg, vers la toute fin de sa vie, puisqu'il a participé aux premières missions de l'IORE. Il est décédé en cours de route. Alors, quelques autres collègues français, Jean Chavaillon, géologue et archéologue, et Claude Guillemot, paléontologue. Et puis, un troisième contingent, un contingent kényan, qui est venu une seule année, avec Richard Leakey, le fils de Louis, qui a découvert un Homo sapiens relativement récent, et puis finalement il a compris qu'à Kobifora, il y avait des choses au Kenya qui étaient plus faciles d'accès pour lui et qui l'intéressaient plus. Donc il a laissé travailler Coppens et Howell tout seul dans la vallée de l'Homo. Et quelque chose d'extrêmement important qui a été défini par les équipes franco-américaines, ils se sont rendus compte que vers 2,5 millions d'années, il y avait eu un changement important qu'on pouvait voir dans les sédiments de la vallée de l'Homo. Et on le voyait comment ? On le voyait en particulier grâce au pollen. Mais je reviendrai, il y a d'autres preuves de cela. Ce changement, c'est un changement climatique. Là, on est dans un climat qui est plutôt sympathique, plutôt humide, et là, on passe à quelque chose qui est un petit peu plus aride, qui se dégrade, qui est moins agréable. Et ce qui est intéressant, c'est que ça correspond à l'apparition des premiers outils taillés par l'homme. Et puis, ça correspond à des choses qui ont été rapportées au genre Homo. Là, dans ce cas-là, ce sont des restes dentaires et crâniens d'un probable Homo habilis. Alors, sur la base de ces éléments, alors je suis désolé, monsieur le professeur Brunet, je vais parler d'une théorie d'Yves Coppens. J'espère que ça ne vous embête pas trop. En plus, je vais en dire du bien. Donc, c'est la théorie d'Yves Coppens qu'il a baptisée Homo Event. Alors, avec un petit jeu de mots, je vous parlais tout à l'heure de l'orthographe, sur l'apparition du genre Homo dans la vallée de l'Homo. Une théorie qu'il a proposée le premier en 1975 et qui relie l'apparition du genre Homo avec un changement climatique. Alors, pour mettre un petit peu cette théorie en perspective, le continent africain est un continent particulier parce qu'il s'étend dans sa plus grande longueur du nord au sud. Donc ça veut dire qu'il traverse beaucoup de latitudes et qu'il traverse beaucoup de zonations climatiques. Et on le voit là sur cette carte qui retrace un peu les environnements. Là, on a les zones arides du Sahara. Là, on a la forêt et puis toutes les zones de transition, le Sahel. Effectivement, on a une succession d'environnements finalement très différents les uns des autres sur toute la longueur de ce continent. Et de fait, quand on a un changement du climat mondial, quand on a une aridification, quand on a moins d'humidité, bien les zones arides s'étendent, et s'étendent de façon très importante sur ce continent. Donc, toute l'histoire de l'Afrique est marquée par des phases d'expansion de l'aridité et de contraction de la forêt, et puis de réexpansion de la forêt. Et ça, évidemment, ça a eu un impact extrêmement important sur l'histoire de notre histoire, sur l'histoire de l'homme. Alors, c'est que très récemment que les hominidés se sont adaptés à vivre dans des milieux très arides. Ici, ce sont des afars. Mais je vous garantis, ils ne vivent pas très bien. Ce ne sont pas des milieux hospitaliers. Quand on est dans cet état-là de végétation d'humidité, on a très peu de ressources. Donc, tous les hominidés qui nous ont précédés, eux, ont été plutôt inféodés à des milieux où on trouve quand même de l'eau et de l'herbe et des arbres en quantité. Donc, l'Homo event il a été placé à 2,5 millions. Et qu'est-ce qui se passe? C'est en gros ce que le professeur Brunet vient de vous expliquer. On a une augmentation de la capacité cérébrale. Et puis, on a une utilisation des outils liée sans doute à une consommation de la viande. Vous voyez ici un groupe d'Homo habilis comparé à un robuste là-bas dans le fond qui n'a pas d'outils. Alors, on peut discuter, effectivement, il n'est pas du tout sûr que les robustes n'aient pas pu tailler. Mais bon, toujours est-il qu'on a une évolution ici qui a été proposée dans le cadre de cette théorie comme déclenchée par les altérations du climat. Alors, il y a des données, je vous ai parlé des pollens tout à l'heure, on a vu ce qui se passe au niveau des hominidés, il se passe des choses au niveau de l'ensemble de la faune. Alors, ce graphique, ça a l'air compliqué, mais en fait, c'est assez simple. Là, vous avez le temps, depuis 7 millions jusqu'à l'actuel, et puis là, ce sont les différentes espèces de bovidés, les antilopes. Alors, quand vous avez un point noir, c'est l'apparition de cette espèce, et puis le trait, ça représente la durée de sa vie, puis une fois que le trait s'arrête, c'est la fin. Eh bien, si vous regardez bien, là où vous retrouvez le plus d'apparitions dans toute cette période-là, comme par hasard, c'est autour de 2,5 millions. Donc il se passe quelque chose à l'ensemble, au niveau de l'ensemble de la faune, ce n'est pas uniquement le genre homo. Puis il y a des données climatiques et environnementales. Je ne vais pas les commenter toutes, ça prendrait un certain temps. Il y a des données sur la végétation, ça en gros ça représente les végétaux qui sont plutôt herbeux, herbacés. Il y a des données sur les paléotempératures. Et tout ça, finalement, montre que autour de 2,7 millions, 2,5 millions, on a des changements climatiques et des changements environnementaux locaux en Afrique de l'Est qui sont importants. Ça colle bien avec ce qui se passe au niveau de la faune. Maintenant, on peut se demander si l'Homo event, il n'y a pas d'autres explications possibles. Par exemple, quel a été l'impact de la tectonique? En reprenant cette carte, là, ce qui apparaît en rouge, c'est la vallée du Rift, que vous connaissez bien. Alors, donc, la vallée du Turkana ici. Et entre 3 et 2 millions d'années, donc au moment de l'Homo event, on a des bouleversements tectoniques importants, c'est-à-dire qu'on a le Rift qui s'accentue, qui s'ouvre de plus en plus, et puis les montagnes qui bordent le Rift qui s'élèvent. Et ça, ça a des conséquences sur le paysage, bien évidemment, ça a des conséquences sur les environnements, et ça a même des conséquences sur le climat. Et ça, c'est un travail qui a été réalisé par Pierre Sépulcre, qui est un post-doctorant en Californie à l'heure actuelle, qui vient d'un laboratoire parisien en paléoclimatologie, qui a fait de la modélisation. Il a proposé deux modèles. Un modèle qui est, comme à l'heure actuelle, un modèle où on a la vallée du Rift, en Afrique orientale, et puis un modèle sans vallée du Rift. Et on se rend compte que quand on n'a pas de vallée du Rift, on a une mobilité des masses d'air et un apport d'humidité en rouge et puis un départ ici en bleu qui sont beaucoup plus importants que quand on a la vallée du Rift. Ici, on a beaucoup plus de zones blanches, donc on a moins d'humidité finalement qui transite. Donc l'impact du Rift, elle est très très probable. Et puis, il y a aussi, dans l'homo event, des phénomènes, alors que j'appelle intrinsèques, qui sont propres à l'évolution humaine, qui peut-être expliquent la venue du genre homo, l'émergence du genre homo à cette époque-là. Alors je vais vous prendre un exemple, parce qu'il y a plein de choses, on pourrait discuter pendant très longtemps. C'est un exemple relativement récent d'une étude qui a été faite sur notre génome. Et notre génome, il a une particularité dans notre ADN. Nous avons un gène qui contrôle les muscles qui sont liés à la mastication, les muscles qui s'attachent sur notre mandibule et sur notre crâne. Et on se rend compte que dans le genre homo, contrairement à ce qu'on observe chez les grands singes et chez les autres primates, on a une mutation de ce gène qui le rend un petit peu défectueux. Et donc ce gène s'exprime moins bien et les muscles, du coup, de la mastication, sont moins développés chez nous. Alors là, vous voyez ici, les zones en rouge sont les zones d'insertion de ces muscles de la mastication. Et vous voyez, c'est très clair, hein, sur Homo sapiens, ici, c'est beaucoup moins développé que chez le gorille ou que chez un macaque. Alors, les auteurs ont proposé une date pour cette mutation, à 2,4 millions, et ça tombe bien, ça correspondrait avec ce qu'on voit dans le registre fossile. Et puis, ils ont proposé une interprétation qui est hypothétique, hein, je ne dis pas que c'est absolument vérifié, mais ils disent que peut-être le fait d'avoir eu cette mutation qui diminue la part des muscles musculaires sur notre cerveau, ça a permis à notre crâne de se développer. Pourquoi pas ? Donc ce sont des pistes. Alors, je viens de vous dire qu'il y avait un certain nombre de questions qui pourraient permettre de compléter l'hypothèse de l'Homo event. Et ça, ça justifie, à mon sens, des nouvelles recherches dans la vallée de l'Homo. Alors, je vais revenir dans la vallée de l'Homo et je vais vous la présenter un peu plus en détail. Voici la rivière Homo. Alors, dans cette région-là, donc assez proche du delta de l'Homo au niveau du lac Turkana. Donc, c'est une zone très plaine, hein, très plane. On a des montagnes ici, on a des reliefs élevés, mais tout ça, c'est de la plaine. On est dans le rift. Vous avez la capitale de la basse vallée de l'Homo, Homo Raté, qui est une bourgade de environ 1500 personnes. Et puis, vous avez une série de sites. Alors, je ne parlerai pas en détail de Kibiche, c'est là où on a trouvé de l'Homo sapiens, où Richard Leakey a trouvé de l'Homo sapiens. Je pense que vous verrez sans doute cela plus tard dans le cours du professeur Brunet. Moi, ce dont je veux vous parler aujourd'hui en détail, ce sont les fossiles qui proviennent de la formation de Shungura. Alors, voici la colonne stratigraphique de la formation de Shungura. Alors, qu'est-ce que c'est, en fait, cette colonne stratigraphique ? Vous comprendrez cela très bien tout à l'heure, je vais vous montrer une photo, mais vous avez un empilement de couches, et ces couches ont été divisées par les géologues en différents niveaux auxquels on a mis une lettre pour les repérer, parce que c'est finalement plus pratique sur le terrain. Et l'ensemble de cette colonne stratigraphique, vous voyez, on a un empilement ici d'environ 750 mètres ou un peu plus, a été daté, et je reviendrai sur ces dates, entre 3,6 millions et 1 million d'années. Il y a d'autres formations dans la basse vallée de l'Homo que je ne mentionnerai pas aujourd'hui, juste pour information, elles apparaissent là à l'écran. Et je voudrais revenir sur cette colonne stratigraphique et sur cet empilement de couches. Alors voilà une photo des sédiments de la formation de Shungura. Vous voyez, ça marche comme un millefeuille, vous avez les différentes couches, donc c'est très simple. Vous baladez comme ça et vous remontez dans le temps. On a une inclinaison des couches, là on est au plus ancien et là on est à des périodes plus récentes. Et ce qui est très pratique dans la formation de Shungura, c'est qu'on a de nombreux niveaux de ce type-là, qui est un niveau de cendres volcaniques. Et ça, on sait le dater. Ces cendres, on sait les dater par radiochronologie. Donc ça nous permet d'avoir des âges absolus. Et c'est pour ça qu'on se permet de mettre tout un tas d'âges absolus qui divisent, qui marquent en fait les dépôts de cette formation de Shungura. Et vous avez tout un tas de repères, comme ça, les petits triangles, sont tous des repères qui ont été datés de façon absolue. Donc quand on voit ça, en fait, on peut constater que cette formation de Shungura, elle a enregistré toute la période entre 3 et 2 millions d'années de façon très détaillée, de façon très précise et de façon continue. Et c'est le seul site, finalement, en Afrique orientale, et même quasiment dans toute l'Afrique, on peut dire, qui présente cette succession. Donc évidemment, quand on s'intéresse à la période entre 2 et 3 millions d'années, c'est là qu'il faut aller, à mon avis. Alors, bon, je vous ai parlé de la section, donc les membres, les sous-unités, les datations, et puis le travail qui a été effectué par les équipes franco-américaines dans les années 60-70, alors avec de très nombreuses localités fossilifères et d'encore plus nombreux fossiles de vertébrés, y compris des hominidés, mais aussi des sites archéologiques. Et je reviendrai là-dessus. L'ensemble de ces données-là ont permis de classer cette vallée de l'Homo, cette basse vallée de l'Homo, au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors, grâce à toutes ces caractéristiques géologiques, et je vais passer ensuite aux fossiles, c'est clair que c'est un endroit exceptionnel quand on s'intéresse à l'évolution des environnements qui a impacté l'évolution des hominidés. Alors, finalement, puisqu'il y a tellement de fossiles, déjà, pourquoi revenir ? Ben, comme le dit le professeur Brunet, il a parfaitement raison, on a quand même, finalement, cassé peu de fossiles d'hominidés. Et puis, il y a des trous. Quand on regarde le registre, alors là, vous avez le cours de l'année dernière, Australopithecus afarensis, avec Salam, qui a été découverte dans l'Afar, le petit bébé. Australopithecus gary, aussi dans l'Afar, à 2,5 millions. On a les robustes, ici c'est Ethiopicus, qui est connu dans le bassin du Turkana. Et puis on a quelques fossiles qui se rapportent au genre Homo, mais il y en a finalement très peu, ils sont très fragmentaires. Et puis tout le reste, on a des trous, et on n'a pas de fossiles. Donc ça, c'est vraiment important de les combler pour comprendre finalement la transition entre afarensis et puis tout cela. Et comment ceux-là, ils sont reliés les uns aux autres ? Quelles sont leurs relations de parenté ? Est-ce qu'ils dérivent tous d'Afarensis ? Est-ce qu'ils sont groupe frère ? Bon, tout ça, ce sont des questions pour lesquelles on a besoin de combler les trous. C'est pareil pour le registre archéologique. On connaît des industries, un peu avant 2,5 millions, à 2,6 millions, à Gona, dans l'Afar. On en connaît aussi vers 2,3 millions. Mais ces industries indiquent très clairement, par leur niveau d'élaboration, qu'il y a eu des choses avant, mais on ne les a pas encore. Et puis, il y a eu des choses après, et on a aussi très peu d'informations. Donc, pour toutes ces raisons, il faut revenir dans des sites où on a un registre complet entre 3 et 2 millions d'années. Donc, c'est ce qu'on a fait en montant l'Homo Group Research Expedition, qui est une équipe, comme son nom anglais ne l'indique pas, franco-éthiopienne, qui est dirigé donc par moi-même et puis qui inclut un certain nombre de collègues français, éthiopiens, mais aussi américains, qui forment une équipe pluridisciplinaire. Alors on a des géologues, on a des archéologues, je vous les présenterai tout à l'heure, et puis on a des paléontologues, bien évidemment. Et on a débuté l'émission à partir de 2006 et on y revient chaque année. Alors 2006, c'est 30 ans juste après la fin des missions internationales franco-américaines. Et on y revient avec de grandes difficultés, parce que la vallée de l'Homo, il n'y a pas d'autoroute pour y aller. En 1902, vous avez la première route qui a été empruntée, c'est à travers le fleuve. Alors, en 1970, elle a été empruntée aussi, et puis on a eu de la chance. En 2008, on a pu l'emprunter parce qu'il y a eu à nouveau un bac d'installé. C'est la route facile. Pourtant, je vous garantis que traverser ce fleuve, qui est assez large et qui peut être assez tumultueux, on n'emmène pas forcément large quand on est là. Et puis, il y a la route compliquée. Et sur la route compliquée, qui passe à l'ouest, eh bien, en 1933, on se plante. En 1974, on se plante. Et en 2007, on se plante. Et cela, malgré les progrès au niveau de la mécanique. Il n'y a pas de différence. Non, c'est une route vraiment horrible que je vous déconseille. Alors, une fois qu'on est arrivé sur place, par contre, ça se passe beaucoup mieux. Et puis là, on peut travailler et on peut commencer à ramasser des fossiles. Alors, pour ramasser ces fossiles, ce qu'on fait dans la vallée de l'Homo, c'est qu'on ne les cueille pas comme des champignons. Quand un fossile est trouvé, il est signalé par un petit drapeau et il y a une équipe spécialisée au ramassage qui passe derrière. Et cette équipe, elle décide d'abord si le fossile est digne d'intérêt. Donc, s'il est digne d'intérêt, on le ramasse. Sinon, on le laisse sur place, puisqu'on a déjà un certain nombre de fossiles de collectés dans les anciennes missions. Et puis, surtout, cette équipe, elle prend tout un tas de données avec le fossile. On ne se contente pas juste de l'emballer, de le protéger, mais on prend un point GPS pour savoir exactement d'où il vient. On prend les informations sur le sédiment qui est accompagné ce fossile, dans quel contexte, est-ce que c'est du sable, est-ce que c'est des argiles. Et puis, on note aussi la position stratigraphique. Est-ce qu'on est dans le membre B, est-ce qu'on est dans le membre F, et dans quelle sous-couche du membre. Et on regarde aussi au niveau taphonomique, on regarde ce qui se passe, c'est-à-dire au niveau des conditions de gisement. Alors ça, c'est quand on fait de la prospection libre, quand on a des gens qui se baladent et qui regardent s'il y a des fossiles à l'affleurement. Des fois, il faut regarder de très très près. Surtout quand on a trouvé quelque chose d'un petit peu exceptionnel, on regarde s'il n'y a pas des fragments qui se baladent. Alors là, ça prend plus de temps. Et puis si vraiment on veut retrouver des fragments tout petits, on tamise. Alors sans eau, normalement. Et puis si vraiment encore on veut encore plus de détails, eh bien on fait des fouilles. Mais ça c'est plutôt pour les endroits où on a des outils en contexte. Pour les fossiles, ça arrive plus rarement, c'est uniquement quand on a des grosses accumulations. Donc je voudrais vous présenter maintenant les résultats qui ont été obtenus au cours des trois dernières années. Alors à nouveau avec la colonne stratigraphique de la formation de Tchungura. Alors on a quand même prospecté plus de 60 localités et on en a trouvé des nouvelles. Donc ça vaut le coup de revenir puisqu'il y a des nouveaux sites. Alors voici leur répartition dans la formation de Tchungura. Quand on a un triangle avec pointe vers le haut, c'est qu'on a trouvé de l'hominidé. Sinon les couleurs là, elles correspondent au niveau de la colonne stratigraphique et vous verrez qu'on a surtout travaillé entre 3 et 2,5 millions d'années parce que c'est là où on a une grosse lacune. Mais on a commencé aussi à regarder un petit peu avant 2 millions d'années. Alors on a trouvé des fossiles. On n'en a pas ramassé 50 000, pas pour l'instant, mais on en a trouvé quand même quelques-uns. Et ce sont tous des fossiles qu'on peut déterminer de façon précise, au moins au niveau du genre. Quelques exemples. Ici, une mandibule d'hippopotame. Ce sont des animaux que j'aime bien. Alors, je les représente, puis je vous en reparlerai tout à l'heure. Et puis, du singe, énormément de singes. Ce sont des babouins, ça c'est ce qu'on appelle un théropithèque, on connaît leurs descendants à l'heure actuelle sur les hauts plateaux éthiopiens, ce sont les géladas. On en trouve énormément, c'est quasiment la moitié de ce qu'on ramasse. Et puis on a aussi trouvé des hominidés. Donc on n'y est pas allé pour rien. Alors, ce n'est pas aussi impressionnant que ça, on a quand même des dents. Ici, certainement, un Australopithèque robuste, un paranthrope. Et puis là, vers 2,7 millions, on a des dents qui sont ni afarensis, ni tout à fait homo, mais qui sont quelque chose d'intermédiaire. Donc, on a l'intermédiaire qui se balade dans les sédiments. On espère mettre la main dessus. Enfin, on a mis la main dessus, mais sur des restes plus complets, évidemment. Et puis, on a quand même des choses un peu plus complètes. Alors ça, c'est pas homo, c'est aussi un paranthrope. C'est un petit paranthrope, c'est sans doute une demoiselle paranthrope, mais une demoiselle d'un certain âge, puisqu'elle avait perdu toutes ses dents. Et ça, c'est très intéressant, parce que chez les paranthropes, finalement, on pense toujours que ce sont les parents pauvres en paléontologie, ils ont un cerveau beaucoup plus petit que le nôtre, mais peut-être bien que cette dame ne pouvait plus tellement se nourrir par elle-même, mais donc ça implique un certain nombre de choses au niveau comportemental. Et puis, quand on regarde l'ensemble des fossiles qu'on a collecté, on se rend compte qu'on n'a pas toujours les mêmes espèces dans les mêmes proportions suivant les niveaux. Si on regarde ici dans les membres B et C, entre 3 et 2,5 millions, on s'aperçoit qu'on a beaucoup de singes, comme je vous ai dit, puis finalement assez peu d'antilopes. Par contre, si on va à 2, eh bien là, on a beaucoup plus d'antilopes et on a beaucoup moins de singes. Ça traduit un changement environnemental. Les singes, ils sont plutôt inféodés à des milieux fermés, des buissons au moins, alors que les antilopes, on les trouve plutôt volontiers dans des milieux un peu plus ouverts. Ça veut dire qu'entre 2,5 et 2, on a une ouverture des milieux. C'est bien, ça confirme le fait qu'il y a eu des changements environnementaux importants à cette époque-là. Alors on a aussi fait de l'archéologie. Donc, moi je suis paléontologue, donc je vous présente l'ensemble, mais je dois vous dire que ce sont ces collègues-là, le docteur Jonas Beyene, qui travaille au ministère de la Culture en Éthiopie, et le docteur Anne Delaine, qui est à l'Université de Bordeaux, qui regardent les outils dans le détail. on a trouvé beaucoup de sites archéologiques et beaucoup de nouveaux, 14, alors qu'on en connaissait 8 avant. Alors voici leur répartition, en carré ceux qui étaient connus avant et en rond ceux qui ont été découverts par nous-mêmes. Alors essentiellement autour de 2,3 millions. Il y a eu des critiques des outils qui avaient été trouvés dans l'Homo dans les années 70, où certains auteurs avaient dit « bon, ben, finalement, c'est peut-être pas naturel ». C'est vrai que ce n'est pas évident de reconnaître des outils taillés parmi les plus primitifs, parce que c'est le début, et donc on a des choses qui sont assez frustes. Néanmoins, ce qu'on a fait en 2008 démontre clairement qu'on a des outils taillés. Alors, ici, vous avez des enlèvements. En fait, c'est un shopping tool. Je pense que vous aurez un peu plus de détails dans la suite des cours sur l'archéologie. Mais clairement, ça, c'est un outil taillé. Et c'est un outil taillé dans du quartz. Quelque chose qui est assez étonnant, parce que il y avait un certain nombre de roches qui pouvaient être taillées, qui étaient disponibles. Il y avait des basaltes, il y avait d'autres roches volcaniques qui sont finalement assez fines, assez faciles à tailler. Mais les hominidés de l'Homo, à 2,3 millions, ils ont systématiquement choisi le quartz. 98% de ce qu'ils ont taillé, c'est du quartz. Or, le quartz, c'est très dur à tailler. Pourquoi ils ont fait ça? C'est une question qu'on se pose. Et puis, alors, ne le répétez pas à l'extérieur, mais peut-être on a des choses plus vieilles que 2,6 millions. Là, potentiellement, on a les plus vieux outils au monde. Ça demande des confirmations, mais on y travaille. Et puis, on fait de la géologie aussi, parce que la paléontologie et l'archéologie, ça ne vaut pas grand-chose quand on ne connaît pas le contexte géologique. Et pour ça, on a le docteur Schuster, Mathieu Schuster, de l'Université de Poitiers, qui étudie la géologie avec nous. Et donc, sur la base du travail cartographique qui avait été effectué dans les années 60-70, on regarde à nouveau le contexte géologique. Et on s'aperçoit que les choses n'étaient peut-être pas aussi simples que ce qu'elles avaient été telles qu'elles avaient été décrites dans les années 70. Effectivement, alors on retrouve les couches du gâteau ici, avec les niveaux de cendres volcaniques, qui ont un pendage comme ça, mais si on regarde bien dans le détail, oui, ça penche comme ça, mais des fois, ça penche comme ça aussi. Ça veut dire qu'il y a eu des bouleversements tectoniques importants qui sont postérieurs ou presque contemporains du dépôt de ces sédiments. Ça a un impact évidemment sur l'environnement, au même titre que le rift. Ça fait partie des activités du rift. Ça n'avait pas été décrit précédemment. Et puis aussi, on s'intéresse à essayer de reconstruire les environnements en regardant la morphologie des sédiments. Et quand vous voyez des formes comme ça, là par exemple, bien ça, ce sont des dépôts qui sont typiques d'un méandre. On a du sable qui s'est déposé dans le méandre d'une rivière. Bon, on a tout un tas d'éléments comme ça qui nous permettront de reconstituer les environnements de façon la plus fine possible. On a même des activités biologiques, comme ici une termitière, quelque chose qui n'avait pas été signalé, qui est très bien connu au Tchad, mais qui n'avait pas été signalé dans l'Homo. Alors, on a tout un tas de données. Évidemment, ces données, on les note sur des cahiers sur le terrain, mais des fois, on peut égarer les cahiers, donc il faut aussi... Puis on est à l'ère de l'informatique, donc on fait des bases de données. Alors, je vous passerai sur le détail, c'est simplement pour vous montrer que tout ça est enregistré et consigné dans le détail, ici les points GPS, pour chaque individu collecté, et puis pour les sites, on a des fiches différentes avec tout un tas d'informations. Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus, c'est simplement pour vous montrer le principe. Cette approche des données où on met tout dans ce qu'on appelle une base de données informatique, ça va nous permettre de faire des choses intéressantes. On va regarder les choses non plus une par une, mais on va essayer de regarder dans leur globalité, tout ensemble, les unes par rapport aux autres. Alors, en commençant par replacer les sites au niveau géographique, et puis en mettant les informations de la géologie. Ça fait une couche, à laquelle se superpose une autre couche, sont toutes les informations sur les éléments vivants, les fossiles de vertébrés, mais aussi les éléments de flore. Et puis, une autre couche, un autre niveau, ce sont les informations sur l'écologie, le mode de vie des vertébrés. Alors, vous aurez un séminaire la semaine prochaine, je crois, sur les isotopes. Ce sont des méthodes qui permettent de reconstituer le régime alimentaire. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais simplement retenez l'idée qu'on prend les informations écologiques. Et puis, les informations comportementales, en particulier pour les hommes, quel a été leur comportement, et ça, on le sait, notamment grâce à l'archéologie et aux outils. Et on replace tout ça dans le temps, alors avec la stratigraphie, et donc on peut analyser, grâce à ce qu'on appelle un système d'information géographique, la distribution dans le temps et dans l'espace de toutes ces données les unes par rapport aux autres. Et on espère retrouver des schémas communs qui nous expliquent comment l'environnement a influencé l'évolution du vivant dans la vallée. Ça, c'est au niveau local. Après, on a le niveau régional. Et là, je vais vous reparler un petit peu des hippopotames. Si vous le permettez, je sais bien que c'est un séminaire sur les hominidés, mais bon, on va quand même parler des hominidés aussi. En vous présentant un certain nombre de sites dans l'Afar et dans le Turkana qui ont livré des données qui sont intéressantes à comparer. Alors, les hippopotames, pourquoi je vous parle de ça? Quel intérêt par rapport aux hominidés? Vous allez le comprendre assez rapidement, je pense. Mais rappelez-vous que les hippopotames sont des animaux qui sont inféodés au milieu aquatique. Ils peuvent aller sur terre, mais ils passent l'essentiel de leur temps dans l'eau, et quand ils restent trop loin de l'eau, eh bien leur peau, qui est tout à fait particulière, elle se dessèche, elle craquelle, et l'animal meurt. Ils sont extrêmement sensibles à ça. Donc, ils ne peuvent pas aller très loin sans eau. Donc, quand un hippopotame, quand on le connaît dans le bassin du Turkana, et qu'on connaît dans le bassin de l'Afar, on peut se dire qu'il y a une continuité des réseaux hydrographiques. Au même titre, si on retrouve ici des hippopotames différents de ceux de l'Afar, on peut se dire que finalement, il n'y a peut-être pas de continuité géographique. Et vers 3 millions d'années, eh bien, c'est exactement le cas de figure qu'on a. On a des hippopotames dans le Turkana qui sont différents de ceux de l'Afar. Donc on a ici probablement une barrière avec de l'endémisme, et puis on a une faible diversité. Là, on a une espèce, là, on a une espèce. Alors, on a une situation qui n'est pas tout à fait parallèle au niveau des hominidés, puisque très probablement, on retrouve Australopithecus afarensis dans le Turkana, comme dans l'Afar. Dans l'Afar, c'est clair, vous avez Lucie, on connaît bien. Là, on a des restes beaucoup plus ténus, donc ça peut être un petit peu discuté, mais donc on ne peut pas vraiment dire qu'on a une situation identique, puisqu'on a sans doute quand même la même espèce. Par contre, au niveau de la diversité, il n'y en a qu'une, hein, à cette époque-là. Est-ce qu'il y a eu des interactions entre les deux groupes? Sans doute pas à cette époque. Par contre, vers 2,5 millions, entre 2,5 millions et 2 millions d'années, il y a des choses qui se produisent. Déjà, la diversité augmente. Au lieu d'avoir une seule espèce dans le Turkana, au niveau des hippopotames, on en a deux. Et puis, il y en a deux aussi dans l'Afar, suite à une migration d'Asie. Donc là, on a toujours un endémisme, on n'a pas les mêmes choses d'un côté et de l'autre. On a une diversité plus importante, et puis on a un contact, un échange dans le sens Asie-Afrique. Alors, chez les hominidés, on commence à avoir des choses un petit peu similaires. On a une augmentation de la diversité, et puis on a un certain endémisme. Puisque là, par exemple, on a Australopithecus gari, qui n'est pas connu dans l'Afar, qui n'est pas connu dans le Turkana, pardon, et on a les paranthropes qui ne sont pas connus dans l'Afar. Donc on a un endémisme peut-être bien modéré. On a le genre Homo, et le genre Homo, à cette époque-là, eh bien, lui, il va se balader en Eurasie. C'est la première fois. Donc on a un endémisme au moins partiel, on a une diversité plus importante, et on a un échange dans le sens Afrique-Asie. Et puis, on a une relation. Pour la première fois, on observe des traces sur les os d'hippopotame d'utilisation d'outils par l'homme. Alors, ça tombe bien, c'est à peu près l'époque à laquelle on connaît les premiers outils. Et donc, sans doute lié à un charognage, parce que ce ne sont pas des outils qui permettent de tuer vraiment un hippopotame, mais il y a une consommation claire de viande d'hippopotame par les hominidés. On avance dans le temps, et entre 2 millions et 1 million d'années, on a à nouveau des changements. On a une très grosse espèce d'hippopotamidée qui apparaît. On a à nouveau des évolutions là en local avec des petites formes, des très petites formes qui ressemblent à du nanisme insulaire. Alors finalement, ça colle avec le fait qu'on puisse considérer le bassin du Turkana comme une île isolée. Et puis on a cette très grosse forme qui est le genre Hippopotamus, l'hippopotame actuel, qui lui passe aussi dans la phare. Et donc là, on a rupture de l'endémisme. Et on a disparition de toutes les espèces anciennes. Donc on a un renouvellement important. Que se passe-t-il chez les hominidés ? On a l'apparition d'Homo erectus, qui lui aussi va se balader dans la phare. Et on a disparition des homos et des australopithèques qui précédaient. Donc on a une situation qui est là maintenant exactement parallèle. Et on a beaucoup plus de preuves d'une consommation très active par les hominidés des hippopotames. On a énormément de traces de boucherie, d'os cassés en association avec des outils et liés à du charognage et peut-être même avec de la chasse. Et quand on avance dans le temps encore plus rapidement, alors là, avec Homo sapiens, à partir de 200 000, et avec l'hippopotame commun qu'on trouve aujourd'hui, on a une seule espèce qui est répandue partout, et puis là, on a de la chasse et sans doute aussi du charognage très intensif, donc un lien très fort entre les deux espèces. Eh bien, tout ça, c'est pour vous montrer que quand on reconstitue l'évolution d'un groupe qui n'est pas celui qui nous intéresse principalement ici, mais qui sont les hominidés, on peut tout de même arriver à montrer des choses au niveau de l'environnement, en particulier ici des réseaux hydrographiques, qui ont probablement eu un impact sur l'évolution des hominidés à l'échelle régionale et qui donc nous permettent d'avancer dans notre connaissance de l'Homo event. Voilà, je vous remercie et je voudrais citer les principaux partenaires de ce travail. Simplement, juste, je voudrais les citer quand même, les autorités éthiopiennes, les autorités françaises en Éthiopie, le professeur Brunet et son équipe à Poitiers qui m'ont considérablement aidé, aussi le professeur White, et puis tous les gens qui ont financé. Et je pense que maintenant, on va peut-être passer aux questions.